Merci au jeudi en question d'abord de m'avoir invité et donc permis de m'adresser à vous sur les médias. C'est un sujet qui passionne toujours les foules. Il faut parler un petit peu plus fort, me dit-on. C'est vrai que j'ai l'habitude d'avoir un micro devant moi. Donc c'est vrai que je ne parle pas. Alors, si vraiment vous entendez pas, n'hésitez pas à me faire signe. Donc merci, je disais au jeudi en question. De m'avoir invité pour parler de médias, parce que c'est vrai que c'est un sujet visiblement qui passionne beaucoup, mais qui divise aussi beaucoup, comme on le verra, et à raison, parfois à tort. Mais je ne vais pas rentrer tout de suite dans le débat, parce qu'on m'a demandé de jouer les pivots, hein, Bernard Pivot, donc je vais vous présenter quelques bouquins. Alors, les bouquins dont je vais vous parler, de toute façon, ce sont des livres qui sont indispensable à mon avis déjà pour comprendre pourquoi l'information, pourquoi on est rentré dans une société de spectacle et pourquoi on est dans une société marchande par là même, parce que le spectacle, le marchand, ça marche évidemment ensemble. Alors j'espère qu'un certain nombre d'entre vous connaissent, j'en suis sûr même, donc la société du spectacle de Guy Debord. C'est à mon avis indispensable. Des commentaires sur la société de spectacle qui ont aussi suivi. Hein. Ce sont deux bouquins qui vont ensemble et qui, à mon sens, sont vraiment indispensables pour comprendre un petit peu comment notre société, après la guerre, a évolué donc vers une marchandisation, notamment de l'information, des médias, mais aussi finalement de tout, parce que tout est devenu spectacle. On le voit aujourd'hui. Jusqu'y compris sur nos écrans. Hein. L'aboutissement ultime, c'est le spectacle de soi. Hein. C'est l'auto-célébration aujourd'hui via notamment les selfies. C'est aussi de l'information, les selfies, puisque ces fameuses photos, hein, on se photographie soi-même avec d'autres ou tout seul, eh bien, se retrouvent sur des écrans et sur Facebook, et qui est aussi, et là j'anticipe un petit peu sur ce que je vais dire, mais qui est aussi et beaucoup pour un certain nombre d'entre nous une source d'information aujourd'hui. Voilà, source d'information. Jean tout à l'heure a évoqué les débuts de la presse. D'ailleurs, ça partait mal la presse avec Renaudot, parce que faut savoir quand même que la Gazette de Théophraste Renaudot parlait surtout des informations de la cour. Donc finalement, c'était déjà des infos sur les puissants. C'est les puissants qui manipulaient déjà un pseudo-journalisme. On ne pouvait pas vraiment parler de journalisme à l'époque. Vous voyez que c'était déjà le pouvoir en place qui avait décidé de communiquer en créant donc cette fameuse gazette. Bon, la société du spectacle, à mon avis, indispensable. Après, plus près de nous, de Noam Chomsky, parce que Noam Chomsky est quelqu'un dont vous avez très certainement entendu parler, un chercheur, un linguiste, un philosophe, enfin bon, il a de multiples casquettes, mais c'est surtout quelqu'un qui a beaucoup réfléchi sur la société américaine, et c'est une société, bien sûr, la société américaine de spectacle, et il a écrit un livre vraiment intéressant qui s'appelle « La fabrication du consentement » avec Edouard Herrmann. C'est un livre que vous trouverez facilement aux éditions Agone, et qui nous plonge littéralement dans l'information manipulée, dans comment les pouvoirs ont pris le contrôle sur un certain nombre de médias, alors aux États-Unis, mais ça peut tout à fait s'extrapoler, bien sûr, ici en Europe et dans d'autres pays développés. Et puis on m'avait dit deux, mais je ne peux pas m'empêcher, parce qu'il y en a trois, parce qu'il y a un bouquin, alors là, c'est sur la télévision. Moi, ça m'intéresse, même si je travaille dans une radio, parce qu'aujourd'hui, il faut bien le dire, même si pendant très longtemps, c'est le papier qui était le support de l'information, aujourd'hui, ce sont bien sûr les écrans. Ben oui, c'est la télévision en particulier, et depuis maintenant 40 ans, qui donne l'essentiel, peut-être 90% des informations dont on parle tous, dans la cour de récréation pour les plus jeunes, jusqu'au café, peut-être pour tous les autres. Alors, il y a eu peu d'études sur la télévision, c'est-à-dire les effets, c'est ça qui m'intéresse. Parce que le contenu de la télévision, on pourrait en débattre très longtemps, mais comment est fabriquée la télévision et comment elle a un impact sur les cerveaux? Parce qu'on dit souvent, oui, il raconte n'importe quoi sur TF1, machin et tout. Oui, mais alors, vous n'êtes pas obligé d'allumer le poste de télé non plus, hein, on pourrait tous le tourner. Pourquoi on ne le tourne pas? Pourquoi c'est devenu, pourquoi on est devenu addict, en fait, à la télévision? Et c'est ce qu'explique un chercheur qui s'appelle Michel Démurger, donc c'est un Français, qui a fait une étude en 2008, mais une étude qui avait commencé déjà une dizaine d'années auparavant, sur des centaines de téléspectateurs. Et il a donc écrit un rapport qui n'a intéressé visiblement que les chercheurs, sauf quelques journalistes qui faisaient des recherches sur les médias, et qui s'appelle « Lobotomie, la vérité scientifique sur les effets de la télévision ». Alors je vous le conseille parce que à double titre, d'abord parce que il est paru aux éditions Max Milo, parce que je donne aussi les éditions, hein, c'est ça, parce que je fais pivot en même temps, donc Max Milo, et il est paru en février 2011. Alors il y a la télé, le contenu, oui c'est vrai qu'il peut être manipulatoire, d'ailleurs il explique dans quelle mesure on peut être complètement omnubilé, endormi par certains programmes de télévision, mais dans le sens où on laisse une part de notre cerveau disponible pour Coca-Cola, c'est-à-dire comment à la télévision on a mis en place tout un stratagème de couleurs, comment on a mis en place tout un stratagème de mise en scène pour que l'on reste devant un programme de télévision. Mais ce qu'il a étudié aussi, c'est les effets du poste lui-même de télévision, c'est-à-dire cet appareil qui émet des ondes électromagnétiques et qui a une influence sur notre cerveau directement. Et plus on regarde la télévision jeune ou n'importe quel écran, et plus cette influence va être très très prégnante. Et il le montre donc à travers des cas tout à fait concrets. C'est un petit peu, j'avoue, un petit peu scientifique. Il y a des parties, hein, bon, c'est un chercheur, il n'a pas voulu forcément se mettre à la portée de tous. Mais il y a des passages qui sont faciles à lire. Et surtout, surtout si vous êtes parent, lisez absolument ce bouquin avant de mettre un enfant de moins de 3 ans devant un quelconque écran. Je parle de la télé au sens large, parce que les écrans aujourd'hui, c'est autant l'écran d'ordinateur que l'écran de télévision, si vous voulez éviter, voilà, que par la suite il soit, comment dire, un petit peu endormi ou en tous les cas complètement omnubilé par toutes ces images-là, qu'il ait un petit peu d'esprit critique. Alors, juste, j'en finis sur les livres parce que c'est important aussi. Là on parle de choses un petit peu internationales, un petit peu loin. Alors moi je suis plutôt spécialiste des médias locaux, j'ai toujours travaillé dans des médias dits de proximité, hein, c'est ce qui m'intéresse moi, c'est ce qui se passe chez moi, parce que ce qui se passe à 10 000 km de chez moi, oui c'est intéressant, mais je ne peux pas avoir vraiment d'influence dessus. En revanche, tout ce qui se passe à côté de chez moi, 30 km autour, ça c'est quelque chose qui m'intéresse. Donc qu'est-ce qui m'intéresse ici? Ben, c'est la presse locale. Et à ce niveau-là, je vous conseille un bouquin qui est paru il y a vraiment, vraiment pas très très longtemps. L'auteur est également dans la salle, ça s'appelle « Presse Business, histoire critique d'une presse bien française ». On a fait un sujet là-dessus, c'est aux éditions donc Presse Des Agrumes, tout simplement. Voilà. Alors là, ça raconte, c'est très simple, c'est une histoire vraiment de la presse française, bien sûr, dans un premier temps, on va dire, mais très rapidement, on va s'intéresser à nos médias ici. Parce que c'est important aussi, vous vous informez sûrement, un certain nombre d'entre vous, depuis longtemps, à travers Centre Presse, La Dépêche, France 3, Totem, etc. Bon, ben là-dedans, en fait, vous trouverez toutes les arcanes, les relations, pourquoi tel ou tel titre est plutôt de centre droit, pourquoi un autre est plutôt à gauche, pourquoi un autre parle plus de sport, pourquoi l'autre il fait plus de faits divers, etc. Les relations qu'entretiennent les journalistes locaux. Enfin bon, c'est des pratiques qu'on trouve un petit peu partout avec les pouvoirs économiques et les pouvoirs politiques. Et ça parle de chez nous, ça parle de choses que nous avons à côté de nous. Il y a des noms de gens que vous verrez dans la presse, il y a des gens de noms que vous connaissez, que vous côtoyez. À mon sens, c'est super important parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment ça, c'est la presse de proximité, c'est celle qui va vous informer au plus près de l'endroit où vous vivez, là où vous êtes. C'est ça l'intérêt. Donc voilà, la presse business, alors il y a tout dans le titre, hein, bien sûr. Parce que, à la limite, on pourrait s'arrêter là et dire oui, l'information, c'est bien une marchandise. Reste à savoir pourquoi et comment c'est devenu une marchandise. Et voilà, j'en ai fini, hein. On en est à 5, mais c'est parce que c'est du même auteur, Hugo Robert, qui est ici dans la salle. Et il a écrit ces deux bouquins qui sont super intéressants. Alors, rien à voir, c'est pas historique, ce sont des romans, c'est des choses qui racontent des histoires sur la politique aujourd'hui, mais aussi l'information et la communication, en particulier dans certaines collectivités locales. qui sont dominantes dans notre département. Voilà. Donc vous avez les diaboliques de R. Je vous laisse deviner ce qu'est R et les trois points de suspension. Et quelle est la ville qui commence par R, pas loin d'ici. Voilà. Donc les diaboliques de R. Hein. Voilà. Et ici, la comédie des animaux malades, c'est la suite. Hein. C'est pour ça que je montre les deux. C'est la suite. Il faut absolument lire les deux. Alors ça, c'est les infos que vous n'avez pas lues dans vos journaux, comme on dit, ni vues, ni entendues, ni lues à la télévision ou à la radio, sur les dernières affaires politico-économiques et de fesses aussi, parce qu'en fait, on parle beaucoup de cul. Voilà. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Vous voyez. Donc c'est, voilà. Donc c'est important, je crois, aussi de promouvoir les auteurs locaux. Il y a, à ma connaissance, autant j'ai navigué un petit peu partout puisque je travaillais à Radio France, il y a eu très peu d'études qui ont été faites localement sur les journaux locaux. Vous voyez que c'est très très compliqué et que l'auteur lui-même parfois a eu quelques petits ennuis, voilà, avec ses confrères qui ne sont pas toujours très aimables. Et alors avec le personnel politique, c'est encore pire, bien sûr, surtout en ce moment. Peut-être qu'il nous en dira deux mots un petit peu plus tard. Voilà pour les bouquins. Donc à vous de faire votre choix, bien sûr, mais toujours des bouquins qui ouvrent l'esprit critique. Ce que je vais vous dire ce soir, en fait, c'est ça qui est très important. C'est la première chose, c'est que lorsque une information, lorsque vous allez la lire, l'entendre ou la voir, la première question à se poser avant toute chose, avant que voilà, on analyse l'information elle-même, c'est de se dire d'où vient cette information ? Qui me la raconte, cette info ? C'est-à-dire, quel est l'organe de presse qui me donne l'info en question ? Est-ce que c'est du service public ? Hein ? Bon, dans l'audiovisuel, c'est du service public, mais il y a aussi du privé. Est-ce que c'est un journal qui appartient à un parti politique ? C'est un journal qui appartient plutôt, je ne sais pas moi, à un homme d'affaires, par exemple. Est-ce que cette télévision appartient à un groupe pharmaceutique ? Ou cette radio à un groupe pharmaceutique ? Ou est-ce que... Bon, bref. Voilà, c'est-à-dire d'où vient l'info. Alors, évidemment, ce que je dis là, il faut que je me l'applique à moi-même, parce que certains d'entre vous ne me connaissent pas vraiment. Donc il faut que je commence par le commencement. La première info, c'est qui est Jean-Pierre Alexandre ? Parce que je ne vais pas parler ex-cathédra, moi je ne suis pas prof à la fac, et je ne suis pas là pour vous asséner des vérités. D'ailleurs, la vérité n'existe pas, hein. Je vous le dis tout de suite, donc ne la cherchez pas, elle est écrite nulle part, la vérité. Dans aucun journal, aucun organe, il n'y a aucune panacée, personne ne vous dira exactement ce qu'est la vérité. Donc vous avez intérêt à vous la forger vous-même et avoir un sacré sens critique. Donc vous allez d'abord me critiquer moi, c'est normal, vous allez qui c'est ce gars qui s'autorise à venir parler de l'information, est-ce que c'est une marchandise ? Alors moi, je suis responsable, je m'appelle Jean-Pierre Alexandre et je suis responsable d'une radio de proximité, hein, généraliste, qui s'appelle RTR, Radio Temps Rodez. C'est RTR, d'où ça sort, d'où ils viennent. Alors RTR, en fait, c'est une association. Alors il y a beaucoup de radios, hein, qui sont des associations, il faut le savoir. Donc le simple mot radio associative ne doit pas vous faire dire « Ah, c'est génial, c'est super, Totem est une radio associative ». Il faut le savoir. Mais ce n'est pas une radio non commerciale. Or, je rajoute tout de suite, associative et non commerciale. Donc, nous rentrons tout à fait dans la nomenclature du CSA, parce que nous sommes, nous, obligés ici en France de passer par les fourches codines de notre organisme de tutelle, qui s'appelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Personne ici en France ne peut émettre de façon officielle sans être déclaré auprès du CSA. Personne. Après, ça s'appelle Radio Pirate. Hein. Ça a eu existé. Hein. Il y a des gars qui font des radios ou des télé pirates. Mais si vous l'êtes officiellement reconnu, c'est le CSA qui vous adoube. Hein. Comme au bon vieux temps, voilà, des rois et des reines. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que nous, on a été adoubés. On a eu de la chance. On est arrivé donc en 2011 à Rodez. Enfin, exactement, l'histoire de Radio Temps, je ne vais pas tout la faire, mais elle sort en fait d'un établissement scolaire qui s'appelle l'établissement Louis Kerbe. Et elle est à l'initiative de professeurs et en particulier d'un proviseur qui s'appelle Pierre-Étienne Vanprouille, qui avait une idée en se disant « Tiens, on va mettre justement les outils de compréhension auprès des plus jeunes, des élèves, si c'est possible, pour qu'ils comprennent comment on fabrique l'information, comment on fabrique une émission de radio. » Et puis un jour, en 2008, on s'est rencontré avec ce monsieur, Pierre-Étienne Vanprouille. Moi, je venais de Radio France, je ne savais pas trop quoi faire ici, parce que, bon, il me disait, les radios, c'est un peu mort. Et donc, elle m'a dit, ben non, moi j'ai monté, ça y est, une petite radio là, à l'intérieur de l'établissement scolaire. Et j'ai dit, ben banco, il faut aller plus loin, il faut essayer d'en faire une nouvelle radio locale, puisque je connais, je suis ruthénois, moi-même, donc je connaissais un petit peu le paysage, et je savais que le totem avait basculé dans l'horreur. C'est-à-dire qu'à partir de 2000, elle est devenue une radio commerciale, ce qui n'était pas le cas avant. Parce que j'ai démarré justement dans cette radio, qui s'appelait Radio Cité, pour ceux qui s'en souviennent, puisque Radio Cité est née place de la Cité, à Rodez. D'ailleurs, très mauvaise idée, entre parenthèses, hein, le nom de la radio, parce que Radio Cité ment, Radio Cité ment, Radio Cité est allemand. Alors, il y en a beaucoup qui se souviendront de ce petit jingle, qui n'était pas très sympathique hein, à l'époque de l'occupation, parce qu'il y avait un poste privé à Paris qui s'appelait Radio Cité. Et évidemment, il était gangréné par les collaborationnistes, voire les nazis. Et très rapidement, les résistants ont dit « Radio Cité ment, Radio Cité ment, Radio Cité est allemand ». Mais on nous l'a attribué à nous. À l'époque, j'avais 14 ans, moi, je ne comprenais pas très bien d'où ça sortait. Mais très rapidement, on a dit « Ouh là là, Radio Cité, ce n'était pas une bonne idée finalement ». Donc on va dire RC12. Hein, c'est devenu RC12, 12 FM. Et en 2000, basculé dans l'horreur. Voilà. Donc moi, je suis parti bien avant, hein. Je suis parti en 1990 précisément. Mais c'était la première, une des premières, en tous les cas, ici, vraie radio locale, non commerciale. Alors quand je suis revenu, moi, entre-temps, je suis parti à Radio France, et quand je suis revenu, ici, dans mon pays, j'ai dit, ah ben, il n'y a plus de radio non commerciale. Donc, voyant que ce projet au lycée Louis Kerbe était né, qu'il y avait déjà une volonté du matériel et des gens qui voulaient la faire fonctionner, on a dit banco, on ne savait pas si on allait gagner, mais finalement on a réussi à avoir cette fameuse fréquence. Voilà, voilà ce que c'est Radio Temps Rodez, qui est devenu RTR, parce que c'est long à dire et qu'on est assez feignant hein, dans la radio, on met tout en acronyme hein, si on peut, donc on dit RTR maintenant sur le 107 FM. Voilà. Sinon entre-temps, bien, j'ai travaillé donc à France Culture, mais j'ai travaillé surtout dans le réseau France Bleu, parce que ce qui m'intéressait, c'était la proximité donc, de Radio France, ce qui s'appelle aujourd'hui le réseau France Bleu. Voilà. Donc voilà d'où je viens, en fait. J'ai fait tout ce parcours depuis l'âge de 14 ans. J'ai démarré la radio à 14 ans. Bon, j'ai eu du bol, hein, parce que à Radio Cité et Mans, ils étaient aussi sympas. Et ils m'ont embauché assez rapidement. Voilà. Donc ça fait juste 35 ans que je traîne un petit peu mes guêtres entre la maison de la radio et les radios locales, puisque j'ai fait aussi d'autres radios locales entre-temps, privées, je le précise. Voilà. Maintenant, je ne suis pas un spécialiste des médias nationaux et internationaux. Attention, même si nous avons décidé justement à RTR d'inaugurer ce fameux slogan « Le local, c'est pas le bocal. Du local à l'international. L'information locale, ok, mais l'information internationale, parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde globalisé et qu'il nous semblait intéressant de travailler avec la seule radio francophone au monde qui a plus de 1000 journalistes, enfin aujourd'hui 800 journalistes, pardon, ils en ont perdu 20% entre-temps, là. Mais oui, malheureusement, c'était des plans de... Voilà, mais en tout cas, 1000 journalistes francophones, ça s'appelle Radio France Internationale. Alors, c'est pas pour faire la pub à ma radio, vous voyez, c'est pour faire la pub à Radio France Internationale. Écoutez Radio France Internationale, ne serait-ce que pour faire la différence entre le traitement de l'information internationale, par exemple, chez nos amis de France Inter, France Culture, si vous voulez, ou Arte, pour parler de la télévision, et ce que fait Radio France Internationale. Si vous voulez vraiment avoir des informations de fond à l'étranger, c'est une excellente radio. C'est la raison pour laquelle on a décidé que ce serait notre support médiatique pour les informations nationales et internationales. Donc si vous écoutez RTR, pour le même prix, déjà que c'est gratuit la radio en plus, mais pour le même prix, vous aurez deux radios sur la même fréquence. Donc les décrochages, c'est RFI, c'est pour ça que vous entendez le décrochage donc, de ces informations. Voilà, ça, donc voilà qui je suis en fait, ok. Donc je n'ai pas travaillé avec Pujadas, je n'ai pas travaillé à France Télévisions, ni à France Inter avec Mermet, tout ça, mais je les ai côtoyés en fait, c'est des gens que j'ai vus, que j'ai croisés les uns, les autres, surtout Nicolas Demorand en fait, hein, parce que à France Culture j'ai travaillé avec lui pendant un petit moment, donc c'est vrai que c'était assez intéressant pour ce qui s'est passé par la suite. Alors voilà, qui produit l'info? Voilà, donc moi je vous dis, qui parle? Qui vous parle? Vous avez intérêt à vous poser cette première question, dès que je prends un truc, ouais mais c'est qui Gurbert en fait? Qu'est-ce qu'il veut nous fourguer? Ils viennent d'où en fait ces gars-là? Ok? Je prends Centre Presse. Ouais, ok, mais c'est quoi Centre Presse? En fait, ça vient d'où? C'est quoi son histoire exacte? Je pense que ça vaut vraiment le coup. J'ouvre TF1, je comprends peut-être rapidement ce qui se passe. Mais quand même, ça vaut le coup de chercher un petit peu aussi qui me présente l'information à TF1. Voilà. Bon, la deuxième chose qu'il faut lever tout de suite, toute ambiguïté, c'est l'information. Le journaliste, quel qu'il soit, presse écrite, radio, télévisée, serait quelqu'un qui aurait la science infuse. En fait, il saurait tout, le gars. Et donc, ce qu'il écrit, ce qu'il dit ou ce qu'il raconte à travers les images, en fait, c'est vrai. Non, en fait, c'est pas vrai. Il n'y a pas d'objectivité, ça n'existe pas, d'accord? Même dans les écoles de journalisme, aujourd'hui, on évite d'employer ce mot. Il n'y a personne n'est objectif, personne. Il n'y a pas de choses qui, voilà, qui seraient comme ça, qui descendraient du ciel. Et puis, alors, le journalisme anglo-saxon essaye de faire quelque chose d'un petit peu neutre. Alors, moi, je préfère dire neutre. Voilà, on peut être un peu neutre sur certains faits d'actualité. On peut ne pas mettre, disons, ses opinions, ou en tout cas, on peut les mettre un petit peu de côté, on peut écrire d'une certaine façon, mais en fait, aucune source, aucune n'est neutre. Voilà. Et c'est important de le savoir là aussi, parce que, disons que ça peut induire en erreur quand on prend un journal et qu'on lit un article au pied de la lettre. Et qu'on se dit, ah ouais, c'est vrai, donc c'est vrai, même l'image que je vois là, c'est vrai. Non, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Donc il va falloir à chaque fois se dire, non, l'objectivité, alors il y a des journalistes qui sont plus ou moins engagés, il y en a qui font plus ou moins état de ce qu'ils pensent sur le monde, sur leurs opinions politiques, normalement non. Hein, bon, mais en fait, c'est pas, voilà, bon, ça transparaît toujours à un moment ou à un autre. Voilà. Ensuite, je voudrais dire une chose importante, c'est qu'on parle de journalisme. Journalisme, c'est très précis. Et au risque de déplaire au jeudi en question, je ne suis pas journaliste. Voilà pourquoi, en fait, je suis tranquille. En fait, je ne suis pas journaliste. Je fais office de journaliste. Un vrai journaliste, il y en a ici dans la salle, des gens qui ont été encartés. C'est-à-dire qu'ils ont une carte, on appelait ça, nous, un petit peu par dérision et aussi pour se moquer, la carte de police, hein, parce qu'elle est bleu-blanc-rouge, elle est barrée bleu-blanc-rouge. En fait, ils sont reconnus par une commission nationale qui remet cette carte et qui fait que ces gens-là font vraiment du journalisme officiellement, voilà, par un certain temps. C'est-à-dire que, on va dire que les trois quarts, au moins, de leur boulot, hein, là où ils travaillent, dans l'entreprise où ils sont, le journal, la télé, la radio, consiste à produire de l'information, à travailler sur l'actualité. Or, moi, je ne peux pas faire ça, même si je traite de l'information et que je m'occupe de journalisme, parce qu'en fait, je fais plein d'autres trucs. Ouais, je suis responsable des programmes. Or, rien que ça fait que je ne peux pas obtenir la carte de presse. Ça ne m'empêche pas de parler des journalistes, puisqu'en fait, je travaille avec des journalistes en permanence et que je fais un travail aussi de journalisme. Mais là-dessus, je pense qu'il y en a qui pourront apporter peut-être tout à l'heure un éclairage particulier. Mais c'est important de dire ça parce qu'en France, il y a un certain, je ne sais pas d'ailleurs le nombre exact de journalistes, hein, mais je crois, bon, peut-être 100 000 ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est un chiffre assez réduit, non, Ibéric ? 55 000. Voilà, 55 000 environ qui sont encartés. Voilà. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, tous les autres, tous ceux qui travaillent autour, donc ça peut être des gens comme moi, c'est-à-dire des responsables de programmes qui font office d'eux, qui font aussi de l'information, etc. Mais c'est malheureusement très souvent ce qu'on a appelé, d'ailleurs ce que vous avez très justement appelé, les low cost, le journalisme low cost. C'est quoi ? Ben, c'est des pigistes. Pas gentil, journalisme low cost. Mais c'est des pigistes. Souvent, ce sont des gens donc, qui sont payés à la pige, c'est-à-dire à l'article ou au sujet qui va tourner à un moment donné. Ou chez nous, ça va être un son qui va aller faire. Mais c'est un, on va le payer pour un reportage. Or, ces gens-là, ils sont un petit peu dans la précarité quand même parce que forcément, on leur fait miroiter bien souvent qu'ils vont être embauchés à un moment ou à un autre s'ils font bien leur boulot. Et s'ils disent bien les choses qu'on leur a demandé de dire. Parce que sinon, en fait, comme ils n'ont pas de contrat direct et qu'ils ne sont pas encartés, eh bien, ils risquent fort, comme on dit vulgairement, de gicler. Si ça ne plaît pas aux rédacteurs en chef, ce qu'ils ont été ramenés, ramassés, interviewés, etc. Parce que, voilà. Et au pire, d'ailleurs, les pauvres pigistes, il y en a certains, ils vont faire un travail, ils vont travailler, ils vont ramener leur boulot et le rédacteur en chef va dire... Bon, non, ça, en fait, on le prend pas et le gars, il n'est pas payé. Hein. Donc, il faut quand même savoir que c'est un des rares boulots où on peut vous demander de faire quelque chose et à la fin, quand vous avez ramené votre travail, vous dire non, ce sujet, ça va pas, finalement, on n'a pas la place ou on verra le mois prochain si on ne peut pas ce sujet-là. Voilà. Donc c'est quand même une extrême précarité. Et il faut rester un certain nombre de temps. Alors Radio France, je connais bien le système, hein, Ibéric aussi connaît bien le système. Il va falloir rester un certain nombre de temps pigiste si on veut, à un moment donné, accéder à la marche supérieure et être intégré donc, dans une des locales, bien souvent, plus rarement, dans une chaîne nationale. Voilà. Donc, en fait, l'information est fabriquée déjà par des gens qui sont précaires, hein, pour trois quarts précaires. Et la précarité, elle se lie aujourd'hui aussi économiquement dans la vente des journaux. Alors là, ce sont plutôt les journaux papier qui souffrent un petit peu de ce désamour, hein, finalement, de nous avec notre presse, puisqu'il y a de moins en moins de gens qui achètent la presse. Alors évidemment, ici, dans l'Aveyron, le prochain sur la liste, donc, c'est le Ruthénois, hein. Le Ruthénois, peut-être certains le connaissent, c'est un hebdomadaire qui a été d'ailleurs lancé par Hugo Robert, ici présent. Cinq ans et demi à peine après, ça y est, c'est terminado. C'est plié, il va fermer. C'est sûr, à la fin de l'année, il n'y aura plus de Ruthénois. Donc vous voyez, ça fait encore des journalistes qui vont se retrouver sur le carreau. Parce que le modèle économique aujourd'hui fait qu'il faut vendre beaucoup et en dépit de la publicité, parce que c'est la publicité qui fait vivre bien souvent la presse, eh bien en dépit de cette publicité, si les ventes ne sont pas là, le journal, il plie et il s'arrête. Voilà. Bon, alors, on va revenir à l'information elle-même, c'est-à-dire cette fameuse information, qu'est-ce que c'est ? À l'info, en fait, il ne faut pas croire que c'est toujours l'information qui est écrite, rapportée par la radio ou la télé. En fait, à la base, on échange tous les jours, nous, sur cette planète, des milliards d'informations. Là, en ce moment, et depuis le début de cet exposé, j'ai échangé des tas d'informations, et pas uniquement que verbales, mais aussi visuelles. Ça, c'est de l'information. À l'intérieur de l'information, il y a des catégories. Voilà. Et il y a une catégorie qui se trouve être traitée par des professionnels qui s'appellent des journalistes, c'est l'actualité. Mais l'actualité, qu'est-ce que c'est exactement ? C'est ce qu'on veut bien en faire, finalement, de l'actualité. Pourquoi je mettrais à la une tel ou tel sujet et pourquoi pas un autre ? Finalement, pourquoi mon actualité, votre actualité, ça ne serait pas la une tous les jours ? Pourquoi est-ce qu'on écoute comme ça, gentiment, on lit toujours le même journal, on écoute toujours les mêmes éditorialistes, on entend et on regarde les mêmes journalistes tous les jours à la télévision nous asséner les mêmes choses ? On ne sait pas pourquoi on fait ça. En réalité, on pourrait très bien se dire, j'ai mon libre arbitre, je peux très bien moi-même faire mon actualité tous les jours. Et on peut le faire, effectivement, si on a des outils pour ça. C'est-à-dire que si on a développé suffisamment un esprit critique et qu'on se dit, je ne vais pas rester coincé, alors moi je parle souvent de radio, on ne va pas rester coincé sur telle fréquence, mais je vais peut-être commencer à tourner le bouton à un moment donné. Et peut-être que je vais écouter autre chose. Donc je vais m'abreuver à plusieurs sources d'informations. Ça c'est important, on parlait tout à l'heure de des sources d'informations et je pense qu'il faut aller à plusieurs sources d'informations pour se faire réellement une opinion sur un sujet donné. Si c'est possible, aujourd'hui avec Internet, évidemment, la multiplicité des sources d'informations est quasiment infinie. Alors vous allez me dire, ouais, mais ça c'est super compliqué, évidemment, parce qu'il va falloir faire le tri entre le bon grain et l'ivraie. Ouais, mais là j'allais vous dire, l'actualité, votre actualité, c'est la plus importante. Donc le tri est vite fait entre ce qui vous intéresse, ce qui vous préoccupe, ce qui est là, immédiat, important pour vous, et puis tout le reste. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle, ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il faut prendre vraiment du recul sur cette information déjà, sur cette actualité. Donc cette information qui est devenue actualité et qui est à la une des journaux. Il faut prendre du recul. C'est pas forcément déjà la vérité qui est assénée, même très rarement en réalité. Et surtout, peut-être que ça ne vous préoccupe pas vraiment. Vous voyez, je vais même presque à l'encontre, finalement. Je ne vends pas là mon métier, parce que je dis, finalement, vous pouvez très bien vous en passer. Raison pour laquelle, d'ailleurs, sur RTR, j'en profite pour dire que nous cassons les codes en disant, pourquoi tous les matins, on assènerait une revue de presse ? Pourquoi tous les matins, je donnerais des informations qui se suivent linéaires, hein, qui s'enchaînent en plus parfois un peu bizarrement, hein, on parle d'un fait divers, puis après on va vous parler de sport, puis après on va vous parler de culture. C'est assez bizarre, hein, ce gloubi-boulga, hein, quand on y réfléchit, on se demande bien quelle est la trame, quelle est la logique. Alors nous, on préfère faire ce qu'on appelle de la contre-programmation. Donc, ça veut dire qu'on peut faire autre chose aussi. Et si on n'a pas envie tous les matins de se laisser complètement envahir par ça, surtout le matin, j'y vais, parce que quand on se lève, on a plutôt envie d'avoir la pêche, hein, et de se dire que le monde est beau et qu'on va pouvoir le changer. Or, aujourd'hui, malheureusement, cette information est un petit peu désespérante à de nombreux égards. Voilà. Donc, éducation à la fabrication de l'information, c'est la raison pour laquelle peut-être on va tout de suite parler de l'école, parce que l'école, c'est un truc très important dans lequel alors, la ministre, cette année, a semblé dire qu'il faudrait une éducation aux médias. Il n'y a pas si longtemps que ça, que chaque collège ait une radio, par exemple, en référence, hein, pour que tous les collégiens, à un moment donné, sachent comment on fabrique cette fameuse information. Il n'y a rien de mystérieux. Il n'y a pas de magie là-dedans. Il y a des hommes, tout simplement, qui croient à certaines choses, qui font des choix, et ce sont des choix tous arbitraires. Et leur source n'est jamais neutre. Et ce qu'ils font, ils ne le font pas de façon neutre. Voilà ce qu'il faut apprendre. Avec aussi le décodage, hein, qui est important, le décodage des images, le décodage des sons. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est aussi dans des médias où, évidemment, les fakes sont très très nombreux, hein. On peut faire du montage nous-mêmes, nous faisons du montage à la radio, à la télévision, on fait du montage, et puis dans la presse on fait du caviardage, hein. Donc on peut faire du montage à un moment donné, c'est-à-dire qu'on peut tout d'un coup associer des choses qui normalement ne devraient pas être associées, ou on peut tronquer certaines citations, comme ce qu'on plaise à le faire à un certain nombre de personnes, on peut tomber aussi là-dedans, et donc essayer de manipuler. Alors je ne dis pas que... Là, je ne veux pas rentrer dans les complots. Pour moi, il n'y a pas de complot. Il n'y a aucun complot. Ça n'existe pas, ça, le complot. Il n'y a que des gens qui veulent croire à certaines choses, qui ont envie de se dire, le complot, effectivement, ça m'arrange, ou c'est quelque chose qui va peut-être, à un moment donné, me servir ou servir telle ou telle cause. Mais en réalité, ça n'existe pas. Par contre, il existe bien des montages, et on l'a vu, et la télévision, malheureusement, nous montre régulièrement les photos aussi. Hein. Il y a une photo qui circulait il n'y a pas si longtemps encore, je crois, sur le net. On en parlait tout à l'heure sur ce train de réfugiés où il avait écrit, je ne sais plus exactement quoi. Enfin, on avait trafiqué en fait l'écriture qu'il y avait sur le train, mais en réalité, c'est le Front National qui s'en est servi, puisque c'est un train qui, soi-disant, devait aller à Béziers ou je ne sais trop quoi. Et en fait, c'était un montage de gens malveillants. Mais ça peut aussi exister dans ce cas-là. Alors évidemment, toute cette fabrication, tout ça, hein, ça demande de l'argent. Hein, on ne va pas dire que c'est gratuit de fabriquer de l'information. Vous l'avez compris, même s'il y a des petits OS, des petites mains, il y a quand même un coût de fabrication du journal, il y a un coût de diffusion à la télévision, il y a un coût de diffusion également à la radio. Donc ça veut dire que cette information, elle a quand même... c'est une marchandise. Elle a un coût et il va falloir évidemment l'assumer. Alors, ce qu'on va faire, c'est que pour attirer le public, évidemment, on va peut-être se laisser aller à certaines facilités. On va voir ce qui est beaucoup plus facile à absorber pour le public. Je ne sais pas, moi, par exemple, le public aime beaucoup, on aime bien, j'aime bien aussi les malheurs des autres. Voilà, c'est la raison. Ah oui, on aime bien parce qu'on se dit que, en même temps, moi quand j'entends tel ou tel fait divers, je me dis ouf, ça ne m'est pas arrivé à moi. En revanche, je me repais évidemment de tous ces faits divers qui font diversion, puisque le fait divers fait diversion. Et il est souvent à la une de certains journaux, de certaines télévisions aussi qui s'en servent, mais à outrance, alors qu'en réalité, un fait divers ne devrait rester qu'à sa place, c'est-à-dire quelque chose de particulièrement minoritaire qui n'a d'intérêt que pour les personnes qui l'ont vécu, j'allais dire, ou les personnes proches, et qui ne devraient rester que dans un cercle particulièrement restreint, à la limite faire un entrefilet, mais faire des gros titres avec certains faits divers qui n'intéressent finalement que les personnes qui les ont vécus, c'est un petit peu dommage, mais pourtant, voilà, on vit là-dedans. Et puis, on va fabriquer ainsi, et petit à petit, et au fur et à mesure, parce que tout ça, évidemment, se fabrique sur des années et des années, on va fabriquer des gens qui, finalement, auront peur. Et finalement, les politiques pourront récupérer ça en disant il y a un sentiment d'insécurité dans la population. Et finalement, on va avoir peur un petit peu les uns des autres, parce que peut-être que l'assassin de tout à l'heure, il est dans la salle. L'assassin est peut-être dans la salle. Voilà, donc à un moment donné, et oui, là, on s'est laissé un petit peu manipuler, en fait, parce qu'on a lu. Donc, pourtant, ça va faire vendre du papier, parce qu'on est ainsi fait qu'on aime se repaître du malheur des autres, et qu'en réalité, quand on s'aperçoit de ça et qu'on est financier, on a bien envie que ça continue. Alors vous allez me dire, ouais, mais les journalistes, est-ce qu'ils ont intérêt à faire ça ? Oui, pour un certain nombre d'entre eux, ils ont intérêt s'ils veulent conserver leur place, s'ils veulent continuer à travailler, à gagner leur vie dans ce milieu qu'ils ont choisi. Et est-ce qu'on peut les en blâmer de faire ça ? Est-ce que pour autant on peut dire que c'est un complot qui est ourdi contre la société, quelque chose ? Non, pas du tout. C'est simplement qu'ils veulent garder leur place. C'est la raison pour laquelle, encore une fois, il faut faire le tri entre ce qui représente quelque chose d'important pour vous tous les jours, quand vous écoutez les informations, encore une fois, et puis le reste. Et vous avez aussi cette dichotomie entre les médias qui sont dominants et qui vont donc forcément, par le nombre, par les informations qui vont être données, la TF1, etc., arrose la France entière. Oui, mais rien ne vous empêche d'aller, encore une fois, de tourner le bouton et d'aller écouter peut-être une radio locale à côté de chez vous, ou une télévision ou un journal alternatif qui va vous parler peut-être d'autres choses qui sont plus, des choses qui seront beaucoup plus importantes pour vous, encore une fois. Donc je crois que c'est quand même un choix. Donc médias dominants, médias dominés, oui. Dominants, souvent ceux qui ont la force économique, les appuis politiques, oui, parce que c'est comme ça, ce sont des réseaux aussi, encore une fois, quand on lit la presse business ou quand on, tout simplement, qu'on étudie un petit peu l'histoire de la presse en France et ailleurs, eh bien, ce sont forcément forces, des influences qui se sont faites au fur et à mesure et qui ont donc fabriqué les journaux qu'on connaît aujourd'hui. Il y a une espèce de suite comme ça, tout à fait logique. Alors, ensuite, il y a quand même beaucoup d'informations, 90% des informations qui sont aujourd'hui ce qu'on appelle des infomerciales ou des informations. Alors, infomerciales, c'est pas un très joli mot, ça veut dire information et commerciale. En fait, ce sont des informations à moitié info, à moitié commerciale. Et on les retrouve, ces informations, beaucoup dans le journal. Quand on vous parle, par exemple, régulièrement, chaque année, des vendanges, on va faire la publicité, mine de rien, d'un certain nombre de châteaux. Si on choisit tel ou tel château pour le reportage ou tel ou tel domaine viticole, finalement on va faire de la publicité. Et pourtant on se retrouve en but à la loi Evin là-dessus. Et normalement on ne devrait pas faire de la publicité sur le pinard, en tout cas dans les informations, pas dans les pages de publicité. Mais tout d'un coup dans les infos, on nous dit il y a les vendanges. En plus que, vous savez, ce sont des espèces de marronniers qui reviennent chaque année. Donc, en permanence, avec ce genre d'informations dont on nous a parlé. Mais là, Alors, derrière, évidemment, il y a peut-être, pas toujours, mais il y a peut-être une idée que la régie publicitaire du journal va être intéressée par ce reportage. Ce n'est pas qu'on l'a fait sciemment, qu'on se dit on va signer derrière le commercial, il va aller signer le contrat publicitaire avec la personne chez qui on a été filmé. Mais ce sera peut-être beaucoup plus facile le jour où on va vouloir démarcher ce genre de publicité. On pourra toujours dire, écoutez, on a quand même déjà réalisé ce genre de sujet là-dessus. Voilà, donc l'infomercial se retrouve dans les essais de bagnoles aussi. Les bagnoles, alors en ce moment, on a beaucoup de publicité pour une marque, mais c'est de la contre-publicité, vous savez, la fameuse voiture du peuple. Alors bien sûr, certaines tombent un petit peu dénues, ceci dit, encore une fois, quand je vois, si vous preniez juste, comme on fait nous, des montages, là on peut faire un montage, et s'amuser donc à écouter Volkswagen, 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 Volkswagen toute la journée, et en gros titre. Bon, je suis désolé, mais à un moment donné, il faudrait peut-être se modérer, peut-être qu'en fait c'est vraiment de la publicité déguisée, et qu'il n'en demandait pas tant, parce que là, la campagne actuellement mondiale, parce que ça ne s'arrête plus seulement à l'Allemagne ou aux États-Unis, qu'on a fait pour Volkswagen, je pense, alors je ne sais pas si ça sera contre-productif, mais en tous les cas, la marque, pour ceux qui ne la connaissaient pas, peut-être qu'au fin fond de la Mongolie, ils n'avaient jamais entendu parler de Volkswagen, mais maintenant, grâce à cette histoire-là, je pense qu'ils vont connaître Volkswagen. Donc voilà, alors il y a un moment donné, je pense, où c'est réellement, ça devient pour moi un problème. Est-ce que les journaux ont les moyens, alors vous allez me dire, pourquoi ce genre de sujet ? Parce que ce sont des sujets qui sont rapidement faits, vite faits, ce sont des sujets qui demandent peu d'investissement, mais surtout qui permettent de remplir, hein, ce qu'on appelle remplir un journal, il faut le remplir tous les jours. Il y a un certain nombre de signes, hein, dans les journaux écrits, il y a un certain nombre de minutes à faire, ben, il faut bien les remplir à un moment donné. Donc si vous avez peu de personnel, parce que finalement, ceux qui financent ces médias, y compris d'ailleurs dans le service public, où on, aujourd'hui on regarde un petit peu le coût de la minute, ben, on se dit, bon, avec un journaliste, on va pouvoir faire deux ou trois sujets par jour, mais le journaliste, il va faire des choses voilà, qui sont les plus simples pour lui. En accès, et donc répéter aussi un certain nombre de choses. Il va aller au plus simple. Alors le truc, c'est qu'on aimerait que tous les journalistes soient des journalistes d'investigation. C'est ça que vous espérez. C'est que tous les jours, on sorte de véritables sujets, qu'on enquête réellement sur le personnel politique, économique, sur... qu'on fasse... Là, par exemple, on nous parle de Volkswagen, mais qui sait exactement... Est-ce qu'il y a vraiment une chaîne qui a expliqué exactement ce qui s'était passé? Est-ce que quelqu'un est capable de me dire exactement, à part que Volkswagen a triché, mais à quel niveau est-ce qu'ils ont triché? Est-ce qu'ils sont les seuls à avoir triché, réellement? Et comment? Est-ce que c'est vraiment de la triche? Ou est-ce qu'on les a incités à faire ça? Est-ce qu'on le saura, peut-être dans 10 ans, dans 20 ans? Parce qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, aujourd'hui, de faire ce travail. Un journaliste, il n'a pas le temps. C'est du luxe, un journaliste d'investigation. Et souvent, les journalistes d'investigation, eh bien, ils travaillent tout seuls. Hein, ils vont se retrouver en freelance, c'est-à-dire qu'ils ne seront attachés à aucun titre, à aucune entreprise audiovisuelle. Ils vont travailler pour eux. Et s'ils ont la chance de sortir un bouquin un jour qui va marcher, alors à ce moment-là, ou qu'ils vont faire un reportage qui va être récompensé, alors ils vont être payés. Mais voilà pourquoi dans le circuit traditionnel, on va aller vers des choses faciles, facilement réalisables et absorbables par le public. Et tout ça, il faut le voir sur des années répétées par les mêmes médias qui sont dominants. Alors qu'en réalité, ben, y a d'autres solutions quand même. On peut réellement, il n'y a pas de fatalité hein, à ça. Alors moi je vais parler maintenant pour nos médias, c'est-à-dire pour les radios. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour les radios locales? Juste un chiffre. La presse quotidienne régionale est sous perfusion en France. C'est-à-dire qu'elle perçoit des subventions chaque année au titre, donc, c'est des histoires qui datent de la guerre, hein. C'était pour aider les journaux, et on le comprend très bien, à redémarrer, mais ça a perduré, et ça perdure encore. Un titre comme La Dépêche, par exemple, perçoit comme subvention autour de 2 millions d'euros par an. Centre Presse, l'année dernière, c'était 1 200 000 euros. C'est des subventions cash, hein, direct, et je ne vous compte pas les aides sur le papier, par exemple. Les aides sur le papier, je ne vous les compte pas, ni la distribution, etc. Moi, je fais un média local qui s'appelle RTR, Radio de Proximité. Le CSA, royalement, à moi et à toutes les autres radios, il y en a 500 et quelques autres hein, en France, on perçoit pour faire de la radio 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 50 000 euros par an. Voilà. Et on nous dit... Liberté de la presse, liberté d'informer. Oui, le problème, c'est que tout ça a quand même un coût et que visiblement, ça a l'air de coûter beaucoup plus cher pour le papier que pour la radio. Ce qui est faux, puisque en réalité, quand vous voyez les coûts d'investissement audiovisuel, ils sont 10 fois plus élevés que le coût d'investissement pour un journal. Voilà donc où on en est. Alors on a décidé, on s'est dit, on ne peut pas en rester là parce qu'on ne peut pas vivre avec 50 000 euros. Qu'est-ce que vous voulez faire? Moi, je mets un logiciel d'automation, je fais tourner. Si j'ai de la chance, de temps en temps, je me dégage une heure ou deux pour aller peut-être à une conférence de presse, peut-être à m'intéresser voilà, à tel ou tel aspect de la vie ici locale. Mais je ne peux pas faire grand-chose et je ne peux pas employer une rédaction pour aller faire de l'info. Alors chaque année, on a décidé depuis 2 ans de se réunir en Corrèze. Et on réalise ce qu'on appelle les rencontres nationales des médias libres et du journalisme de résistance. Voilà, parce que, mesdames, messieurs, c'est ce que je voulais vous dire. Il y a la presse officielle, je suis obligé de l'appeler comme ça, dominante. Voilà, vous pouvez lui donner le qualificatif que vous voulez. Celle qui vit encore relativement bien, même si c'est difficile, hein, ne le cachons pas. Et puis, il y a le sous-prolétariat, de la presse actuelle, mais qui a les mêmes coûts hein, que les autres. On est obligé. Hein, l'essence nous coûte. Les magnétos, il faut les acheter, etc. Les cotisations sociales, enfin les salaires, etc. Donc on s'est dit, on va se réunir. Et ainsi à Meymac, alors c'est un petit clin d'œil, puisque vous savez que Meymac, c'est en Corrèze. Et de la Corrèze sont sortis deux présidents illustres, selon certains, de la République quand même. Donc on n'est pas très loin de leur fief, c'était intéressant quand même d'aller sur ces terres-là pour voir un petit peu si nous aussi, peut-être, on toucherait un petit peu la chance, hein, comme on faisait du temps des rois, hein, quand on allait toucher les rois pour avoir un petit peu de chance ou faire guérir les écrouelles, hein, je ne sais plus quoi. Bref, donc on se réunit, on se dit, on va se prendre en main. Et on va, alors il y a des débats, etc. Tous les citoyens sont invités, c'est pas fermé, ce sont pas des colloques pour nous, entre nous. Le public est invité à nous rejoindre. Alors il y a Denis Robert aujourd'hui, enfin cette année, qui était présent, hein, qui est un journaliste d'investigation, justement. Yanis Yuluntas, dont vous avez très certainement aussi entendu beaucoup parler, qui soutient cette cause. Il y a des médias libres. Alors vous allez me dire, c'est quoi des médias libres? Ben, c'est les médias que vous vous dites tous, ouais, c'est génial, c'est bien, c'est de la presse alternative, mais c'est comme Arte, c'est génial, c'est bien, mais personne ne regarde. Ou personne n'écoute, personne ne lit. Alors, pas dans cette assemblée, je suis certain que vous êtes complètement différents. Mais quand je regarde les chiffres, quand on regarde les chiffres, malheureusement, ou de vente de ces journaux, puisqu'il y a des journaux, ou d'écoute de la radio, force est de constater qu'il y a peut-être un mensonge, et cette fois-ci, il n'est pas du côté de la presse. Hein, il est peut-être du côté de ceux qui sont sondés en disant « Ouais, je regarde Arte, ouais, j'écoute RTR, ouais, si, les alternatifs, oui, je les connais. » Sauf qu'en rentrant le soir, on tourne toujours le même bouton, finalement. Ou le matin, on écoute ou on achète toujours le même journal. Et je ne dis pas ça parce que, moi je suis pour la pluralité, je ne dis pas ça parce qu'il faut arrêter d'écouter les autres. Non, il y a des vérités même sur TF1. Ils arrivent à placer des trucs. Si. Non, c'est pas évident, mais c'est pas évident. Il faut écouter longtemps, il faut s'entraîner un petit peu. Mais même sur TF1, même sur TF1, il y a des trucs à sortir. Alors, les médias libres, il y a un petit peu de tout. Hein. Il y a TV Bruit à Toulouse. Il y a une revue que je vous recommande qui s'appelle Silence. Hein, qui est faite notamment à Lyon. Il y a des associations comme Les Pieds dans le PAF, il y a La Canarde Sauvage, il y a Acrimed. Alors si je peux vous conseiller justement pour forger un petit peu notre esprit critique, mais aussi avoir des informations sur les médias, tout support confondu, toutes les dernières informations sur les médias, c'est d'aller sur Acrimed. Acrimed.org, ce sont des chercheurs, en général en communication, des universitaires, mais pas que. Et ça veut dire action critique des médias. C'est très bien fait. Et franchement, on y trouve, je crois, de quoi forger son sens donc, de la critique, hein, largement. Voilà. Donc, on se réunit. Aujourd'hui, il y a plus d'une soixantaine de médias alternatifs. Des médias citoyens, vous allez entendre aussi plusieurs choses, hein. Les téléparticipatives, donc des radios de proximité, associatives, enfin des journalistes indépendants, des réseaux, des fédérations, voilà. Et on voudrait donc que tout ça soit reconnu enfin par les pouvoirs publics sous le terme de tiers secteur de l'audiovisuel. Enfin, c'est un scoop que je vous donne, vous n'en avez jamais entendu parler, c'est un nom que nous avons inventé il y a une dizaine d'années, hein, avec d'autres... parce que j'ai oublié de vous dire quand même, pour être précis, que j'avais fondé aussi deux télévisions locales de proximité, qui s'appellent Télécombraille et Téléaubrac. Mais ça rentre exactement dans cette lignée-là. Et il y a une dizaine d'années, on voulait aller sur le satellite, parce que vous avez remarqué qu'en France, il n'y a aucune télévision non commerciale. Je ne sais pas si vous avez essayé, autant il y a des radios non commerciales, oui. Merci la loi de 1982, merci Georges Filliou. Mais il n'y a pas de télévision associative, il n'y a pas de télévision non commerciale qui soit diffusée sur l'ensemble du territoire. On ne sait pas pourquoi, il y a toujours eu une fin de non-recevoir auprès du CSA notamment. Donc c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, on va tenter de monter donc ce tiers secteur de l'audiovisuel qui n'est pas le secteur commercial que nous connaissons tous, ni le service public que j'ai quitté à regret, mais que j'ai dû quitter aussi, qui est devenu plutôt le service public publicitaire aussi, hein, parce que ça s'est dangereusement pipolisé à la fois, et aussi les antennes aujourd'hui sur France Info, enfin moi je ne reconnais pas vraiment France Info, j'aimais bien, enfin je, voilà, cette chaîne était assez intéressante. Aujourd'hui il y a de la pub, sur, de la pub de marque, hein, classique, ce n'est pas des, des messages d'intérêt généraux. Hein. Mais il y a de la pub sur France Info, je ne sais pas exactement ce qu'ils font sur la Radio France, mais en tous les cas, voilà. Donc ni on ne veut pas être associé au commercial, ni au service public. Donc le tiers secteur médiatique, nous, je pense, peut représenter... un journalisme peut tenter, en tous les cas, aux yeux des pouvoirs publics, on peut tenter ce coup-là, d'essayer de créer ce secteur dans lequel on se retrouvera tous, donc tous médias confondus, et où les citoyens, parce que ça aussi c'est la nouveauté, et je pense que c'est ce qui est intéressant, c'est que vous puissiez, vous aussi, participer d'une certaine manière, et selon certaines règles, mais participer à la vie et aussi à l'élaboration, à la ligne éditoriale de l'ensemble de ces médias. Et chez nous, si vous avez envie, c'est un appel comme ça entre parenthèses, mais ceux qui ont envie de faire de la radio peuvent venir faire de la radio, s'initier. Voilà, donc c'est ouvert également pour sortir de la logique purement donc, commerciale, où on serait obligé voilà, de n'employer que des gens qui seraient payés. Alors c'est important, bien sûr, mais il y a aussi le fait que les citoyens se réapproprient la fabrique de l'information et qu'ils apportent, eux aussi, c'est ça l'intérêt, l'actualité. Voilà. Et un certain nombre d'entre vous profitent, je crois, aussi des antennes d'RTR pour pouvoir passer un certain nombre de messages. Il n'y a pas de mal à ça, sachant que pour l'instant... 99% de la production audiovisuelle en France est commerciale. On risque rien. Enfin, je veux dire, eux, ils ne risquent rien. Nous, on risque tout, finalement. Hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout ce que l'on reçoit, eh bien, est d'origine commerciale. Commercial, ça veut dire que c'est payé par la publicité, que ce soit d'ailleurs des journaux ou des télévisions. Voilà. Donc, alors, aujourd'hui, on est un petit peu des... Vous l'avez compris, hein, c'est des médias de la débrouille, hein, on est obligé de jongler, c'est un petit peu la, la précarité, mais on a quand même été reçu, une délégation a été reçue par la ministre de la Culture, qui s'appelle Fleur Pellerin, et qui a eu une oreille, c'est assez exceptionnel, attentive, mais j'ai l'impression qu'ils ont une oreille très attentive ces temps-ci. Bon, il y a peut-être un truc qui s'appelle les élections, hein, qui peut aider aussi d'avoir une oreille attentive, hein, les élections, donc on n'est pas dupe. Non plus, on demande des engagements écrits. Pour l'instant, il n'y a pas d'engagement écrit, mais n'empêche qu'on a été reçu et que, apparemment, l'idée n'est pas écartée. Alors après, est-ce qu'il va y avoir une association avec le service public ? Parce que, bien sûr, le service public n'est pas très bien non plus. Donc, ils sont en train de calculer, est-ce qu'on ne pourrait pas fusionner les deux, finalement ? Hein ? Il ne pourrait pas y avoir une sorte voilà, d'entente. Bon, bref. En tous les cas, aujourd'hui, on peut dire qu'on peut se prendre en main, on peut à la fois écouter d'autres médias, mais on peut être aussi acteur, nous-mêmes, de ces nouveaux médias qui vont arriver parce qu'il y a des moyens pour cela. Le mieux, c'est de ne pas rester tout seul dans son coin. C'est vrai que c'est mieux de rejoindre une équipe, déjà, qui connaît à peu près la façon dont on peut fabriquer cette information, qui va vous aider, en tous les cas, à réaliser ce que vous avez envie de dire, d'écrire, hein, ça existe aussi pour des journaux, des associations, ou peut-être d'enregistrer, mais je crois que ça vaut le coup. Alors voilà, on espère aujourd'hui l'annonce de la création d'un fonds de soutien, même si des fonds de soutien existent, mais qui sont parcellaires. Je vous ai parlé des fonds de soutien pour les radios, mais il n'y en a pas pour les télé associatives, il n'y en a pas pour les journaux, ça n'existe pas. Bon, alors donc on aimerait que tout ça, encore une fois, soit regroupé pour qu'on y voit un petit peu plus clair. Voilà. Et la ministre a dit, parce que je recherchais justement sa citation, parce que c'est important quand même, parce qu'on l'a noté, on est journaliste quand même, hein. Notre mission est de soutenir la presse qui expérimente et qui invente. Ah, on a été contents alors. Parce que là, dans ces cas-là, effectivement, on rentre complètement dans ce créneau-là. Alors c'est, comme on lui a dit, ben oui, c'est nous, effectivement. C'est nous qui inventons aujourd'hui, et c'est nous qui pouvons peut-être apporter un sang neuf. Voilà. Donc évidemment... Une coordination a été mise en place, c'est la coordination des médias libres qui fonctionne donc en permanence et pas uniquement à mes Mac une fois par an. Donc si vous voulez la rejoindre, je vous donnerai toutes les modalités. Voilà. Donc alors il y a toute une série hein, de choses qu'on peut voilà aujourd'hui qu'on peut faire pour. Il n'y a pas de fatalité donc dans ce domaine de l'information qui pourrait être à des moments une marchandise. On peut reprendre notre destin, si j'ose dire, en main et ne pas se laisser manipuler, entre guillemets. On peut changer de crèmerie. Voilà. Mais faut-il encore en avoir l'envie ? C'est vrai que c'est confortable. Moi, je l'ai fait aussi pendant très longtemps, d'acheter le même journal. On est rassuré, en fait. On a besoin d'être rassuré. Donc, c'est vrai que c'est rassurant. Tout d'un coup, quand on migre vers une autre source d'information, on se dit, oulala, est-ce que peut-être, là, je ne sais pas si je vais trouver exactement les mêmes choses, mais qu'est-ce qu'il me raconte ? Évidemment, ça fait un petit peu drôle au départ. Hein. C'est un petit peu comme changer de Volkswagen. Hein. Tout d'un coup, on se sépare de Volkswagen parce qu'il polluait trop. Alors, on se dit, je vais passer à une autre voiture. Putain, je croyais que Volkswagen, c'était vachement bien. Mais non, vous voyez, c'est pas vrai. Donc, un jour, on démontrera effectivement que c'est bien aussi d'avoir plusieurs sources d'informations et de ne pas avoir peur d'aller ailleurs. Maintenant, je ne vous dis pas, vous allez trouver la vérité. Donc, elle n'existe pas. Vous allez trouver la panacée. Ça n'existe pas non plus. Non, vous avez trouvé des éléments dans chacun des médias qui permettront d'alimenter notre démocratie. Parce que au fin du fin, quand même, cette histoire d'information, d'actualité, c'est pourquoi ? C'est pas normalement pour nous amuser. Le journaliste, il n'est pas là pour faire une émission de divertissement. Il n'est pas là pour aller faire des faits divers non plus. Non, il est là pour nous rappeler qu'on fait tous société et que normalement nous vivons dans une démocratie d'échange où chaque citoyen doit avoir la parole, chaque groupe de citoyens doit avoir la parole, tout le monde doit pouvoir s'exprimer, mais encore faut-il en avoir les moyens, encore faut-il pouvoir soi-même, lorsqu'on va mettre notamment un bulletin dans l'urne, puisque c'est le fin du fin de la démocratie aujourd'hui, c'est d'aller quand même voter, de savoir pour qui, mais surtout pourquoi on va voter. Et pour quelle société ? Vers où veut-on aller ? Or, je crains fort, sans m'avancer trop, que malheureusement, aujourd'hui, 99% donc des médias ne proposent qu'un seul schéma, qu'un seul type de société. Même si l'enseigne est différente, et elle est différente, les titres sont pluriels, malheureusement, les opinions... elles ne sont pas plurielles. L'arrière-cuisine, là où on fabrique l'information, on retrouve souvent les mêmes. D'ailleurs, vous le savez très bien, puisque vous écoutez la radio, vous regardez la télé, et je parle surtout de ces deux médias parce que c'est là que c'est le plus flagrant, vous voyez très bien migrer ces journalistes désespérados, un peu, qui vont au râtelier, qui leur apportera le plus. Et peu importe finalement le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse du libéralisme. Parce qu'en gros, on tourne toujours autour de la même question. Et moi, ça me fait sourire quand sur une chaîne d'information continue, on vous assène un certain nombre de vérités. Parce qu'il y a beaucoup de chroniqueurs, surtout des éditorialistes, hein, qui sont invités à tous les râteliers qu'on voit partout, qui viennent vous donner des leçons, à vous, citoyens, en vous disant « Attention, il faut faire comme ci, il ne faut pas faire ça, etc. » Puis derrière, vous avez une page de publicité qui, bien sûr, va vous inciter à aller consommer toutes ces belles choses que l'éditorialiste, dont l'éditorialiste vient de vous parler, en vous disant « Non, non, surtout, il ne faut pas les utiliser. » Bon, enfin, il y a quand même... On est un peu schizophrène, hein, là, tout d'un coup. Donc, finalement, au bout d'un certain temps, on ne sait plus où on en est. Donc, essayons de changer nos habitudes. Il reste des alternatives... il y a des alternatives aux médias dominants et il y a une presse qui va arriver et qui va, c'est sûr, va changer la donne parce qu'on est arrivé, je pense, au bout d'une logique. Une logique à la fois dans notre société économique, politique, mais aussi médiatique parce que les uns et les autres se tiennent pour le meilleur, normalement, pas pour le pire. Là, parfois, on a l'impression que c'est un peu dans le pire. Alors, je voudrais juste conclure par cette pensée de Blaise Pascal, qui fut mon maître pendant longtemps. J'ai fait quelques études de philo. Et cette pensée m'a toujours suivi parce que, voilà, c'est un petit peu le socle et c'est ce qui a fait que j'ai eu envie de faire de l'information, de la communication, finalement, pour tout dire. Tout s'en fout. Alors, c'est de l'ancien François, hein, un petit peu, mais bon, vous allez traduire très, très facilement. Tout s'en faut que d'avoir oui dire une chose
soit la règle de votre créance, que vous ne devez rien croire, sauf mettre en l'état comme si vous ne l'aviez ouï.
J'espère que vous en avez suivi, Pascal.
C'est le consentement de vous-même et la voix constante de votre raison, et non des autres, qui doit vous faire croire. Voilà, merci.
Bon, mais merci, Pierre. Mais donc là, petite discussion interrompue, le bar est ouvert, on va pouvoir sortir.